Je ne sais pas comment vous percevez cet évangile, surtout le début. Mais quand on le lit, c'est toujours un peu un choc. Alors il faut voir, en plus, cet évangile, on le retrouve dans les autres évangiles, hein, dans les autres évangélistes. Même saint Luc, je crois que saint Luc, il ajoute même celui qui ne préfère pas Jésus, me préfère pas sa femme. Donc c'est vraiment très, très, très radical. C'est très choquant, très bousculant. Et la tentation, ce serait, et ça a toujours été, de relativiser un peu la radicalité de cette parole, en disant « oui, mais quand même, dans certaines circonstances, on peut comprendre qu'il faut bien comprendre ». Alors c'est vrai qu'il faut bien comprendre, mais c'est quand même radical, c'est objectivement radical. Et le Seigneur, s'il y a quelque chose à nuancer, c'est que la relation qu'on a avec Jésus est une relation très particulière, qui n'est pas une relation comme on a avec, avec ceux qui nous entourent. Hein, le Seigneur, Jésus-Christ, nous qui vivons après la mort, sa mort et sa résurrection, son ascension et la Pentecôte, eh bien, le Seigneur Jésus-Christ est toujours avec nous, sans que nous, pour autant nous le voyons au quotidien dans nos vies, comme nous pouvons rencontrer nos conjoints, notre famille. Et donc, ça crée une relation très spécifique, très particulière. Et c'est là-dessus qu'on peut comprendre une certaine, on peut nuancer ou tout au moins ajuster notre compréhension. Mais par contre, la radicalité reste la même. Le Seigneur, chacun personnellement, individuellement, Jésus, le Seigneur, doit être premier dans notre vie. S'il n'est pas premier dans notre vie, comme Jésus le dit, il n'est pas digne de moi. Nous ne sommes pas dignes de lui. Et donc c'est vraiment cette attitude-là qu'il nous faut rechercher. La messe dominicale auquel les chrétiens vont recours toutes les semaines est justement pour exprimer cette démarche. Il faut se souvenir que certains chrétiens, encore récemment, sont morts en allant à cette messe dominicale. Et quand on les... Alors ça, c'est plus des témoignages anciens. Quand on leur demandait « Mais pourquoi vous êtes prêts à mourir pour cela ?» Il disait, mais on ne peut pas faire autrement. Rencontrer Jésus, donner du temps à Jésus, rencontrer Jésus chaque dimanche, jour de sa résurrection, est indispensable pour nous chrétiens parce qu'il est premier dans nos vies. Et on peut le vivre donc au péril de sa vie. Voilà. En tout cas, le Seigneur doit être le premier dans notre vie. Il doit être le premier et ça doit se sentir. Alors, l'Évangile développe par rapport à l'accueil des prophètes, par rapport à l'accueil des disciples, donc par rapport à la communauté chrétienne. Ça doit se sentir dans notre vie chrétienne. C'est-à-dire qu'ensuite, notre manière, le souci que nous avons de nos frères, en particulier les prophètes, celui que nous accueillons, que nous rencontrons dans nos communautés, les disciples, eh bien, nous devons prendre soin les uns des autres, avoir le souci de nos frères. C'est déjà le cas, c'est souvent le cas, mais pas toujours le cas. Et nous devons là aussi nous interpeller, nous interroger sur notre manière d'avoir souci les uns des autres. C'est parce que dans une communauté chrétienne, Jésus est premier dans notre vie chrétienne, Jésus est premier, et qu'ensuite nous avons souci de nos frères chrétiens, que nous sommes en mesure, en tant que communauté et individuellement, de nous mettre au service de tous, de toute l'humanité. Mais il nous faut vivre cette étape, sinon nous vivrons sans doute les exigences chrétiennes comme une morale qu'il nous faut appliquer à la force des poignets et non pas comme une grâce qui nous est, que nous recevons, mais qui nous est donnée de nous mettre au service de tous, y compris de ceux qui sont nos ennemis, hein, jusqu'à ceux qui sont nos ennemis, hein, puisque Jésus nous le demande, en tout cas de les aimer. Et donc il nous faut entrer dans ce cheminement. Jésus premier, et ça c'est déjà exigeant, même pour un prêtre. Hein. Comme on dit souvent, on se donne, on donne sa vie, mais on va très vite à la reprendre. Hein, parce qu'on n'a pas envie de la perdre, contrairement à ce que Jésus dit. Hein, celui qui a trouvé sa vie la perdra, celui qui a perdu sa vie à cause de moi la trouvera. Hein, donc on se donne et nous sommes invités à nous donner, à mettre Jésus premier dans toute notre vie, pour ensuite nous mettre au service de nos frères chrétiens, pour accueillir nos frères chrétiens, nos frères et sœurs, et pour que cette réalité communautaire et personnelle, de vie personnelle dans la relation avec le Seigneur radicale, nous permette, non pas comme une morale qu'il nous faut appliquer de façon forcenée, comme des forcenés, mais nous permet de vivre comme naturellement le souci des autres et de tous, jusqu'à notre ennemi, jusqu'à pardonner à son ennemi et à l'aimer. Pour continuer un peu à expliciter un peu mon propos de la vie, de la manière de vivre en chrétien, qui n'est pas si évidente que ça à percevoir et à ajuster. Hein. Il y a deux tendances dans la vie chrétienne. Hein. Soit il y a une tendance de type sectaire, hein, qui ferait que les chrétiens voudraient se distinguer des autres par leurs idées, leur manière d'être, etc. Et que ce serait un peu comme une citadelle construite dans la société qui ferait envie à personne. Ou bien l'autre excès, c'est de se diluer totalement en relativisant complètement et en parlant par exemple des valeurs chrétiennes, mais finalement ces valeurs très vite elles disparaissent parce que quand il n'y a pas le fondement, les valeurs ne tiennent pas longtemps. Il faut tenir un juste équilibre d'une vie chrétienne très engagée, très engagée, je ne vais pas me répéter trop, mais dans la relation à Jésus, dans la relation frères et sœurs, et d'une vie chrétienne très engagée, mais très ouverte aux frères et sœurs, à ceux qui sont autour de nous, parce que finalement, c'est le Seigneur qui est notre rocher et nous lui avons tout donné. Alors pour compléter un peu ce propos, je vais citer une lettre que je cite régulièrement. C'est la lettre à Dioniète qui a été écrite au deuxième siècle. Donc nous sommes encore dans la période de persécution. Donc c'est un chrétien qui écrit à un ami païen qui s'appelle Dioniète et pour lui expliquer ce qu'est être chrétien dans la société. Donc dans un contexte très hostile et très minoritaire aussi. Et donc, alors il dit plein de choses, mais je reprends simplement un passage qui me semble être interpellant et qui peut faire réfléchir. Le chrétien ne se distingue pas des autres hommes, ni par le pays, ni par le langage, ni par les coutumes, car il n'habite pas de ville qui lui soit propre. Il n'emploie pas quelques dialectes extraordinaires. Leur genre de vie n'a rien de singulier. Leur doctrine n'a pas été découverte par l'imagination ou par les rêveries d'esprits inquiets. Ils ne se font pas, comme tant d'autres, les champions d'une doctrine d'origine humaine. Ils habitent les cités grecques et les cités barbares, suivant le destin de chacun. Ils se conforment aux usages locaux par les vêtements, la nourriture et le reste de l'existence, tout en manifestant les lois extraordinaires et vraiment paradoxales de leur manière de vivre. Ils résident chacun dans sa propre patrie, mais comme des étrangers domiciliés. Ils s'acquittent de tous leurs devoirs de citoyens et supportent toutes les charges, comme des étrangers. Toute terre étrangère leur est une patrie, et toute patrie leur est une terre étrangère. Ils se marient comme tout le monde, ils ont des enfants, mais ils n'abandonnent pas leur nouveau-né. Ils prennent place à une table commune, mais qui n'est pas une table extraordinaire, qui n'est pas une table ordinaire, c'est l'Eucharistie. Ils sont dans la chair, mais ils ne vivent pas selon la chair. Ils passent leur vie sur la terre, mais ils sont citoyens du ciel. Ils obéissent aux lois établies et leur manière de vivre est plus parfaite que les lois. Ils aiment tout le monde et tout le monde les persécute. On ne les connaît pas, mais on les condamne. On les tue et c'est ainsi qu'ils trouvent la vie. Ils sont pauvres et ils font beaucoup de riches. Ils manquent de tout et ils ont tout en abondance. On les méprise et dans ce mépris, ils trouvent leur gloire. On les calomnie et ils y trouvent leur justification. On les insulte et ils bénissent. On les outrage et ils honorent. Alors qu'ils font le bien, on les punit comme des malfaiteurs. Tandis qu'on les châtie, ils se réjouissent comme s'ils naissaient à la vie. Les Juifs leur font la guerre comme à des étrangers, et les Grecs les persécutent. Ceux qui les détestent ne peuvent pas dire la cause de leur hostilité. En un mot, ce que l'âme est dans le corps, les chrétiens le sont dans le monde. L'âme est répandue dans les membres du corps comme les chrétiens dans les cités du monde. L'âme habite dans le corps et pourtant il n'appartient pas au corps, comme les chrétiens habitent dans le monde mais n'appartiennent pas au monde. L'âme invisible est retenue prisonnière dans le corps visible. Ainsi les chrétiens, on les voit vivre dans le monde, mais le culte qu'ils rendent à Dieu demeure invisible. La chair déteste l'âme et lui fait la guerre, sans que celle-ci lui ait fait du tort, mais parce qu'elle l'empêche de jouir des plaisirs. De même que le monde déteste les chrétiens, sans que ceux-ci lui aient fait du tort, mais parce qu'ils s'opposent à ses plaisirs. L'âme aime cette chair qui la déteste, ainsi que ses membres, comme les chrétiens aiment ceux qui les détestent. L'âme est enfermée dans le corps, mais c'est elle qui maintient le corps. Les chrétiens sont détenus dans la prison du monde, mais c'est eux qui maintiennent le monde. L'âme immortelle campe dans une tente mortelle. Ainsi les chrétiens campent-ils dans le monde corruptible en attendant l'incorruptibilité du ciel. L'âme devient meilleure en se mortifiant par la faim et la soif, et les chrétiens persécutés se multiplient de jour en jour. Le poste que Dieu leur a fixé est si beau qu'il ne leur est pas permis de le déserter. Que le Seigneur nous aide à vivre en chrétien au sein de notre société, de notre cité. Amen.